France Inter, le 18-20.
Nous jetons trop, nous recyclons mal ou pas assez. Et de toute façon, le recyclage est le plus souvent assez confus. Les codes couleurs pas toujours clairs, on le voit déjà dans vos questions. Jeter est tellement plus simple que recycler. Le plus souvent, c'est plus lucratif aussi. On ne s'embarrasse plus à réparer, mais on rachète. Quant à nos biodéchets, les épluchures, les restes de cuisine, de jardinage, à moins d'avoir un compost, ce qui reste minoritaire, on met tout ça au même endroit. Que sommes-nous donc devenus pour être à ce point une société qui surconsomme et qui jette? On apprend un peu au fur et à mesure, à réduire les emballages. Le gouvernement s'est lancé dans une grande campagne pour un meilleur recyclage. Il l'a annoncé au début de ce mois avec 50 mesures, pas seulement une campagne, d'ailleurs des mesures assez claires, des poubelles mieux fléchées, un retour de la consigne parfois qui existe en Allemagne, soit dit en passant, des produits plus robustes, plus réparables, moins vulnérables, sur lesquels on écrirait d'ailleurs « voici la durée de vie et voici comment on répare ». Ça s'appelle tout cela l'économie circulaire où rien ne doit se perdre pour notre bien à tous. Et au passage, cette question déjà arrivé sur mon compte Twitter, pourquoi en France ne doit-on pas mettre les pots de yaourt dans les déchets plastiques alors qu'on le fait en Allemagne? C'est dire comme les choses sont parfois extrêmement concrètes. Eh bien, mettons le nez dans nos poubelles ce soir. Comment recyclez-vous? Est-ce que vous savez diminuer vos déchets? Est-ce que vous compostez? Est-ce que vous réparez? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour un produit qui serait plus solide et qui donc durerait plus longtemps? Nous abordons tout ça ce soir si vous le voulez et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et c'est vous qui commencez, Charlotte. Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Bonsoir Charlotte.
En fait, moi je voulais simplement témoigner, dire que c'était pas du tout compliqué de réparer, de composter, même quand on habite en ville. Moi je suis en agglomération parisienne depuis 18 ans et avec des copines on a monté un système d'échange local pour essayer de donner les choses dont on n'a plus besoin. Dans le cadre de ce système d'échange local, on a organisé un café des bricoleurs où des bricoleurs bénévoles vous aident à réparer gratuitement les objets que vous pouvez réutiliser mais que vous ne savez pas faire marcher à nouveau quand ils sont en panne. Et puis j'ai également sur mon balcon un lombricompost qui est très efficace pour tout ce qui est déchets de nourriture, on va dire de fruits, légumes, etc., qui ne sent pas du tout et qui est presque pas encombrant. Donc vraiment c'est facile et on peut mettre des choses en place. Il faut pas se dire c'est trop difficile et j'y arriverai pas quoi.
Bah justement tiens, il a quelle taille votre compost, Charlotte? C'est grand comment en fait quand on le met sur le balcon?
Alors, quand on le met sur le balcon...
C'est un mètre sur un mètre, c'est ça ce qu'on est en train de me faire des signes autour de la table?
C'est beaucoup plus petit que ça, c'est de la taille d'un set de table, si vous voulez.
Ah bon, d'accord. Près,
avec trois bacs qui sont empilés les uns sur les autres. Et donc, je mets mes déchets sur le dessus, les verres grignotent le matériau, et puis il me reste un espèce de jus qui ressemble à du thé. Je peux diluer et avec lequel j'arrose mes plantes.
À ne pas boire, quand même.
À ne pas boire, non. Ça fait beaucoup rire les enfants, c'est du pipi de verre de terre. Oui.
Très bien, voilà.
Et puis, le compost solide que je récupère en gros une fois tous les trimestres et que je mets dans mes plantes. Mais c'est pas des quantités énormes. Deux pots de confiture tous les trimestres de compost que je peux remettre dans mes plantes.
Voilà, et puis j'entends que vous avez des enfants, c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi. On peut avoir une famille, des enfants, c'est pas la peine d'être... La taille de votre compost, ça veut pas dire que vous êtes célibataire et que il faut en avoir un très très grand quand on a une famille. C'est aussi ça que vous nous dites, Charlotte.
Très facile à faire et surtout, en fait, ce qui rebutait mon mari, pour être honnête, c'était l'odeur ou les bestioles que ça pouvait attirer, mais ça sent rien du tout.
Et ça n'attire pas de bestioles?
Alors, ça n'attire pas de bestioles parce qu'en fait, c'est fermé, il y a un couvercle, il y a des petits moucherons qui volaient autour, mais c'est pas non plus gênant. Enfin, c'est des petits moucherons comme on aurait autour d'une plante, par exemple. Mais ça sent rien, ça se voit presque pas. Quand on a des amis qui viennent, qui fument sur le balcon, je leur dis au bout d'un moment, vous avez vu que c'était un lombricompost? Ah bon? Donc, ça passe inaperçu et ça permet de réduire pas mal les déchets quand même.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui débute bien notre discussion, Charlotte. Merci beaucoup pour en discuter avec nous au téléphone sonne ce soir. Flore Bellingen est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'association Zero Waste. Et Nicolas Garnier également, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général d'Amorce, l'association de collectivités territoriales. Flore Bellingen a la raison, Charlotte. Il y a des choses qui sont extrêmement simples, en fait, et qu'on ignore. Souvent.
Oui, merci,
le compost
Charlotte.
En fait partie. Le compost en fait partie. On a l'impression que c'est toute une histoire et surtout qu'il faut avoir un jardin. En fait, pas du tout.
Non, absolument. Le compost, on peut en faire aussi en ville. Et c'est un geste très important, comme le rappelait Charlotte, parce que ça permet de réduire à peu près d'un tiers sa poubelle. Donc, si on veut faire le choix d'une action qui a un impact considérable pour l'environnement, on peut vraiment faire le choix de trier ses biodéchets, de faire du compost dans son jardin ou sur son balcon, ou même éventuellement dans sa cuisine, hein, parce que certains modèles de lombricomposteurs peuvent s'y insérer. Ou si on a la chance, bien sûr, d'être dans une collectivité qui fait une collecte séparée des biodéchets, c'est évidemment encore plus facile.
Alors, est-ce qu'on peut le faire partout, d'ailleurs, dans n'importe quelle ville? Est-ce que c'est simple partout où on va, Nicolas Garnier?
Non, effectivement, d'abord, il faut savoir que les déchets organiques, c'est à peu près un tiers de notre poubelle. Ouais. Un Français, c'est 580 kg de déchets par an qu'il produit. Un tiers est assez facilement recyclable. Un tiers, c'est de la matière organique. Un tiers n'a aucune solution de recyclage, mais on y reviendra. Sur la partie organique.
Ni recyclable, ni biodégradable, aucun des deux, en fait.
Rien. Okay. On y reviendra, mais il y a une liste. Vous faites une visite de supermarché virtuel, vous verrez le nombre d'objets qu'on peut acheter et qui n'ont aucune solution de recyclage. C'est l'un des grands combats qu'on mène. Alors, sur la question de la matière organique, effectivement, il y a plusieurs solutions. Le premier, c'est le compostage de jardin. C'est-à-dire, effectivement, si vous avez un jardin, autant le mettre dans votre jardin, plutôt que d'aller dans une benne, puis ensuite de faire des kilomètres avec. Ça demande un peu d'expérience. C'est un peu comme une cuisine. Un bon compost. Ensuite, la deuxième option, c'est de faire des collectes sélectives. Donc, auquel cas, vous avez effectivement un bac spécifique pour mettre en place vos épluchures de légumes, aussi un peu de déchets verts, pas trop si possible. Puis la troisième option, c'est effectivement le compostage de proximité, qui est très utilisé dans le monde urbain. Moi, par exemple, dans mon arrondissement, une fois par semaine, j'ai la possibilité d'emmener un bio-seau avec mes déchets organiques et là, il y a un compostage collectif qui est plutôt adapté au milieu urbain.
Par exemple, moi aussi qui habite à Paris, dans le 20e, qui n'a pas de balcon, où est-ce que vous les mettez avant d'aller dans le point de compost de votre arrondissement?
Mais dans ma cuisine. Vous avez forcément des épluchures de légumes, sauf que moi, je les mets à part. Et donc, j'ai deux poubelles. Et ensuite, je vais dans un petit endroit du quartier, à côté d'ailleurs du jardin, du parc public. Et il y a une possibilité de ramener ce compost. Alors la difficulté, c'est que certaines formes de collecte sélective sont plus chères. La collecte sélective en porte-à-porte, vous imaginez que s'il y a une benne qui passe spécifiquement pour cela, ça coûte plus cher. C'est pas rédhibitoire, mais ça coûte plus cher.
L'une des
nouveautés de la feuille de route qui a été présentée la semaine dernière, c'est qu'on va avoir une TVA réduite sur ces collectes sélectives, qui va nous permettre d'être un peu plus compétitif, donc qui va coûter un peu moins cher. Mais on espère aussi que tout l'argent qui a été levé par l'État par la fiscalité sur l'élimination des déchets soit massivement affecté à ces solutions de collecte sélective ou de tri à la source des biodéchets ou de compostage individuel.
Et alors pour en finir avec le compost, mais pas forcément d'ailleurs avec les biodéchets, peut-être qu'on y reviendra, est-ce que je dois demander à ma copro par exemple quand j'en mets un sur le balcon ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des autorisations à demander ou pas? Ou est-ce que je peux aller là tout de suite m'en procurer un?
Non, sur le balcon il n'y a aucun souci. Quand on veut lancer un compost collectif de pied d'immeuble ou de quartier,
là, oui, j'imagine.
Oui, bien sûr, là il faut s'entendre non seulement avec ses voisins, mais avoir l'accord de la copropriété si c'est installé en tout cas sur les parties communes, mais ça n'est pas si compliqué. Et puis surtout ça peut être justement un bon moyen de refaire du lien, enfin de renouer avec les personnes qui partagent l'espace.
Et est-ce que sur les sites de vos associations, par exemple, il est écrit, voilà, tiens, vous êtes en pleine zone urbaine, ici à Paris, ou ici à Lyon, ici à Marseille, voilà, où il y a un compost collectif, par exemple, un endroit où vous pourriez amener vos déchets?
Oui, c'est ça, c'est à la mairie, moi j'habite à Lyon, à la mairie du 3e, on vous dit où est-ce qu'il y a les composteurs de proximité qui permettent de venir amener ces éléments-là. Il faut savoir quand même que le tableau est quand même pas aujourd'hui tout rose, hein, puisqu'on a simplement à peu près 10 millions d'habitants qui ont ces systèmes de collecte sélective ou de tri à la source. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de développement à faire sur ces solutions-là, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces mesures financières. Mais si on revient sur la question des déchets organiques, il y a un autre combat à mener, c'est la DDM. Je ne sais pas si vous connaissez, la date de durabilité minimale. C'est la date qu'il y a sur votre paquet de pâtes. Je ne sais pas si vous voyez, vous achetez un paquet de pâtes, il y a une date. Cette date veut dire quoi? Elle ne veut absolument pas dire qu'après cette date, le produit est nocif, mauvais pour la santé, qu'il faut le jeter. Or, 10% de nos poubelles sont composées de produits qui n'ont pas été ouverts. Donc nous, on mène un combat qui consiste à dire qu'il faut enlever cette date qui est un pouce au crime, qui pousse les gens à jeter des produits qui n'ont pas été consommés, alors qu'un paquet de pâtes, après la date... Alors en fait, elle vous garantit de mémoire la saveur et la texture du produit. C'est comme vous ouvrez un paquet de pâtes, normalement il est utilisable. Et donc, on se pose la question de l'intérêt de cette date-là. C'est pas la même chose avec la date limite de consommation.
Oui, oui, tout à fait.
Hein, là, en disant le frais,
on n'est pas dans les produits frais. Voilà, on parle des pâtes, on parle de ces choses-là.
C'est presque un pouce au crime. Il faudrait quand même assouplir un peu ou donner une communication plus claire sur vous pouvez la manger après. C'est pas mortel, quoi.
D'accord. Tiens, on a cette question sur le hashtag Telson. Pourquoi, quand on possède une poubelle pour déchets verts, on ne peut pas y mettre notre compost? Ma mairie me dit que je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même. Elle me dit aussi de réserver cette dernière uniquement aux tontes, aux petits branchages, etc. Merci à vous, nous dit Loise.
Alors en fait, il y a deux types de compost. On peut faire des composts plutôt de déchets verts. Donc il y a des mairies qui ont mis en place, ou des intercommunalités plutôt maintenant, qui ont mis en place des collectes de déchets verts spécifiquement. Et nous, on va l'utiliser dans la fabrication d'un type de compost autour des déchets verts. Si ensuite on y ajoute de la matière organique de type des épluchures, etc., c'est pas tout à fait la même recette d'une certaine manière. Donc il y a certaines collectivités qui ont décidé de focaliser sur le déchet vert parce que c'est en plein boom. Hein. Enfin, là, la période actuelle, mois de mai et mois d'avril, on explose les déchetteries par la quantité de déchets verts qu'on reçoit, de tons, de tailles, etc. Donc il y a un certain nombre de collectivités ont dit, moi je fais le choix de faire des collectes de déchets verts parce que c'est ça le plus gros gisement, et d'autres collectivités ont dit moi les déchets verts on préfère les garder chez, je préfère que vous les gardiez chez vous, par contre c'est des déchets de cuisine que je cherche. Donc il y a les deux cas aujourd'hui en France.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Isabelle, on vous écoute.
Alors là j'avais une question à savoir si les codes couleurs notamment des poubelles de tri sont harmonisés au moins en France par région et en Europe. Est-ce qu'à Lille la poubelle jaune correspond aux déchets qui sont les mêmes à Marseille ou à Nantes, puisque je n'ai pas la réponse à cette question, et si on doit réapprendre des codes couleurs à chaque fois qu'on bouge, ça ne va pas être simple.
Merci. Et puis, j'avais une pardon, allez-y Isabelle.
Si vous avez une idée.
Bien sûr, allez-y.
Juste partager une petite expérience. Il y a 25-30 ans, en Autriche, les enfants apprennent à la maternelle comment trier et dans quelle poubelle on doit les mettre. À l'époque, je me souviens avoir été marquée, il y avait 7 poubelles Oula. Devant chaque groupe d'immeubles et chacun savait quel petit sac on allait descendre ce jour-là. Et les enfants de maternelle enseignaient eux-mêmes à leurs parents et grands-parents le mode de tri. Et à Salzbourg, dans le McDo en plein centre-ville, il y avait les 7 poubelles avec un employé qui guidait les clients. Et ça m'avait vraiment marqué parce que nous, on en était bien loin.
Et on est toujours bien loin de ça d'ailleurs, Flore Berlinguer, non ?
Oui, si je peux rebondir justement Allez-y. Sur cette histoire du McDo, parce que ça nous tient à cœur. On a mené une enquête sur les déchets des fast-food. Il faut savoir qu'en France, les fast-food ne respectent pas la réglementation sur le tri des déchets. Et pourtant, on le voit au travers du témoignage de votre auditrice,
qu'on met tout dans le même
que
truc,
c'est tout à fait possible qu'ils savent le faire à l'étranger, mais en France, ce n'est pas le cas. Et ça nous semble être un problème, parce que non seulement, c'est pas normal que des acteurs de cette taille ne respectent pas les règles du jeu, mais en plus, si on veut que le tri se développe et se généralise, il faut pas qu'il y ait de rupture du geste de tri, c'est-à-dire qu'on trie chez soi, on va trier au bureau, on va trier sur l'espace public, on va trier quand on est à l'extérieur. Et c'est comme ça que le geste devient un automatisme. Et donc c'est important que tout le monde joue le jeu.
Et puis chez McDo, alors on va pas pointer McDo particulièrement parce que les autres fast-food sont dans la même situation. Il y a aussi une quantité d'emballage qui est énorme en fait dans ce genre de choses, non ? Allez-y, Nicolas Garnier.
Est-ce que je réponds à la question des couleurs ?
Mais bien sûr,
j'avais parié qu'on poserait la question.
Mais et on va y venir puisqu'il y a plein de questions couleurs en fait.
Alors d'abord, il faut savoir que 85% des collectivités ont la même couleur. C'est le jaune. C'est le jaune qui est la tendance très forte en termes de couleurs. Il se trouve que les collectivités qui ont démarré avant la mise en place de cette couleur unique ont eu des couleurs différentes et l'ont encore. Cela dit, je voudrais quand même, relativiser la question de la couleur. Vous avez remarqué, alors généralement on nous dit oui, mais vous comprenez, quand on va en vacances, on n'a pas la même couleur de bac. Alors si vous me permettez cette réponse triviale, quand on va en vacances, les toilettes ne sont pas exactement au même endroit que dans votre maison et vous arrivez à les trouver, peut-être la porte n'est pas tout à fait de la même couleur. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais une fois qu'on vous a dit le bac, il est ici chez nous, il est vert, généralement ça pose à peu près aucun problème. Par contre, le vrai sujet qu'il faut qu'on aborde dans une émission comme celle-ci, c'est qu'en fait, je vous donne 10 objets de la vie courante en plastique, et je pense que 9 fois sur 10, les gens vont croire que c'est recyclable alors que ça l'est
alors,
pas.
Attendez,
et donc le vrai sujet, il est là. C'est de savoir ce qui se recycle et ce qui se recycle pas, plutôt que de savoir si la poubelle elle est jaune
alors,
ou elle est verte.
C'est vrai ce que vous dites. Quand même une remarque sur les couleurs. Dans les fameuses 50 mesures qui ont été annoncées la semaine dernière, il y a une recodification, on va dire une remise à plat des couleurs. C'est bien que finalement les choses n'étaient pas aussi claires que ça pour la plupart des gens. Donc maintenant c'est clair, le vert pour le vert, le jaune pour le plastique et même le bleu pour le papier.
On va finir le travail.
Voilà.
C'est la tendance. tendance qu'on est en train de finir, donc, à 85%, on sera à 100%.
C'était un peu le corollaire de la question d'Isabelle. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une harmonie de couleurs européenne, par exemple? C'est possible, ça, ou pas?
Ça va être difficile, parce qu'on a regardé un petit peu ça, et tout le monde a fait ses choix de couleurs différents, donc le temps d'harmoniser les couleurs des bacs au niveau européen, ça va être compliqué. Par contre, ce qui est important, c'est d'aller vers des logos uniques, parce qu'en fait, ce que demande aujourd'hui le consommateur, c'est que quand il rentre dans un supermarché, il puisse savoir, en achetant un produit, s'il se recycle ou pas. C'est ça le grand combat qu'on doit mener. C'est-à-dire qu'il est, débordé par les logos. Il y a des logos partout qui veulent dire recyclable, quelque chose comme ça. Le plus connu étant le point vert. D'ailleurs, on a une bouteille sous les yeux, là. On peut regarder, il y a au moins 6 ou 7 logos.
Et le point vert ne veut absolument pas dire recyclable.
C'est pour ça qu'il va disparaître. Alors qu'en dessous du point vert sur notre bouteille, vous avez un petit bonhomme qui s'appelle le Triman. Et qui est le seul logo qui vous dit que l'objet que vous êtes en train d'acheter doit faire l'objet d'un tri et peut être recyclable. Et donc, c'est pour ça que je vous ai amené un petit cadeau, d'ailleurs.
Ah bah super.
C'est un petit jeton.
J'adore qu'on m'amène des cadeaux,
voilà.
Allez-y.
Hop. Un petit jeton. En fait, c'est un jeton de caddie pour vous dire, est-ce que vous achetez Triman? C'est-à-dire, à chaque fois que vous regardez un produit, est-ce que vous savez s'il se recycle ou pas? Et s'il y a un Triman, et c'est la feuille de route vient de l'imposer, si vous avez le petit logo, ça veut dire que l'objet se recycle. D'ailleurs, votre bouteille d'eau, là, elle a le Triman et se recycle. Et donc, c'est pour penser à acheter Triman.
Ben voilà.
Et vous avez la liste des produits, par exemple, qui aujourd'hui ne se recyclent pas. Donc, vous avez raquettes de tennis, vous avez la vaisselle, vous avez le bricolage, vous avez les CD pour faire un lien avec l'émission.
Ça ne se recycle pas.
Voilà, c'est ça se recycle pas. Il y a un tube de colle, des pots.
Un fer à cheveux, comment on appelle ça? Un séchoir
alors
à cheveux.
Alors celui-là, si. Celui-là, on va pouvoir le recycler. Il est dans les déchets électriques et électroniques et il va même pouvoir être. On peut le ramener en magasin. Mais vous voyez tous les objets qu'on a là, un jouet. Tout à l'heure, on a parlé des enfants. Vous vous rendez compte que en 2018, 99% des jouets mis sur le marché vendus pour des enfants n'ont aucune solution de recyclage. Vous vous rendez compte du symbole? Ça fait aussi partie des mesures qui ont été annoncées la semaine dernière par le gouvernement. Il va y avoir une vraie filière de recyclage des jouets, du jardinage aussi, du bricolage. Ça, c'est nouveau. Il y a beaucoup de travail à faire.
Flore Berlinguer, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je pense qu'il ne faut pas parler que du recyclage dans le cas présent, que ce soit pour la bouteille ou pour le jouet. Il faut penser réutilisation, réemploi. Parce que, notamment pour le jouet, c'est évident, mais il ne s'agit pas forcément de détruire tout ça pour réutiliser éventuellement une partie du plastique, mais c'est de plus en plus difficile parce que aussi bien le jouet que l'emballage est souvent composite. Donc composé de plusieurs matériaux différents, donc ça le rend difficile à recycler et la priorité ça reste quand même d'éviter de produire de nouveaux déchets et donc c'est ce que permet le réemploi et là-dessus la feuille de route comporte une mesure intéressante qui consiste à fixer des objectifs de réemploi distincts de ceux du recyclage, ce qui est très important parce que si tant qu'ils étaient confondus, eh ben on ne pouvait pas distinguer le.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on peut faire tout à fait autre chose avec l'objet que vous avez laissé, c'est ça l'idée?
La différence entre le recyclage et le réemploi, c'est que le recyclage ça passe par la destruction de la bouteille
d'accord.
en plastique, voilà,
pour réutiliser
le plastique, alors que si vous parlez de réemploi, là on pense plutôt à la consigne telle d'accord. qu'on la connaissait il y a quelques dizaines d'années, où on va réutiliser plusieurs fois, jusqu'à 40 fois une bouteille avant de la détruire pour la recycler.
Alors justement, tiens, la consigne dont il est question de la remettre au goût du jour, qui existe chez nos voisins allemands apparemment, je vous vois faire un peu la tête Nicolas Garnier, c'est pas forcément une bonne idée ou pas?
En fait, on est un peu dubitatif, parce qu'en fait, quand on parle de consigne, on parle pas tous de la même chose. Les personnes qui ont plus de 60-65 ans pensent à la bouteille de lait, pensent en particulier
moi aussi,
à la
je m'en souviens, je n'ai pas cet âge, voilà, je vous remercie de le souligner.
Je suis pas sûr que vous l'ayez fait vraiment quand vous étiez petit, parce que c'est vraiment très ancien la question de la bouteille de lait.
Je me souviens du passage du Rémouleur.
Les Alsaciens vous diront que la bouteille de bière se consigne actuellement pour être réutilisée. Alors, les plus jeunes le savent très bien.
Pour répondre à votre question, parce que la consigne, globalement, c'est plutôt intelligent, ce que vient de dire Flore, c'est évident. Si on peut éviter la destruction pour réutiliser, c'est une bonne chose. En réalité, ce qui nous gêne un peu, c'est que la consigne s'est focalisée sur l'un des gisements que l'on collecte le mieux, c'est-à-dire les bouteilles et les canettes. Mm-hmm. Et en fait, c'est aussi le gisement qui a une valeur. Parce qu'il faut savoir que le recyclage, globalement, à part vos bijoux en or, où tout le monde les veut, parce qu'on sait les recycler et on sait faire du business dessus. Moi, les gravats que je récupère dans les déchetteries des collectivités locales, personne n'en veut. Donc en fait, l'un des sujets, c'est savoir s'il y a une économie du recyclage. Or, dans le domaine des canettes, ça a une valeur, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier. Mm-hmm. Dans les bouteilles, ça a une valeur. Et donc, on a une économie du recyclage qui commence à exister. Nous, ce qu'on dit, c'est les consignes, il faudrait plutôt le faire là où ça ne marche pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, on collecte à peine une pile sur trois. Et une pile, c'est polluant. Donc oui, développer la consigne sur des gisements qui sont peu collectés ou mal collectés, ça, c'est une bonne idée. Aller mettre en place un système de consigne. Le risque, c'est qu'à un moment donné, vous ayez une sorte de paupérisation, parce que les gens vont ramener dans les magasins des petites quantités de bouteilles pour gagner quelques sous, alors que dans le même temps, il y a un service public qui vous assure une collecte en bas de l'immeuble, et celle-ci, elle a plutôt réussi. Donc l'un des enjeux, c'est plutôt de savoir comment on recycle bien des emballages qui ne se recyclent pas. Vous avez parlé du pot d'Yaourt, vous vous rendez compte ? Mm-hmm. Le pot d'Yaourt ne se recycle pas. Eh oui. C'est fou, hein ? Plutôt que d'aller essayer de mettre en place un système en concurrence avec le service public pour récupérer des bouteilles, alors qu'une grande partie des bouteilles,
on les a. Là, on ne parle pas de système concurrent, puisqu'il s'agit de faire une chose différente, en fait. Le service public va collecter le plastique pour le recycler. Là, on parle de collecter des bouteilles qui pourraient être lavées, réutilisées, dans des systèmes de production qui, en plus, sont locaux, parce que la consigne pour réemploi, donc pour réutilisation des bouteilles, elle n'a de sens que si on l'envisage à échelle régionale. Hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire traverser toute la France à des bouteilles en verre. Mais voilà, on parle de deux choses complètement différentes. La collecte pour recyclage versus la consigne pour réemploi.
Cette question sur franceinter.fr, je trouve un peu facile, nous dit cette auditrice, elle s'appelle Marie, je trouve un peu facile de toujours nous pointer du doigt, nous les particuliers, dans les problèmes de recyclage. Ce n'est pas par manque de bonne volonté que nous ne recyclons pas toujours. En effet, il manque souvent des structures, par exemple, dans certaines villes. Elle a raison, Marie, on a un peu tendance à nous demander à nous de fournir des efforts que, tiens, on parlait de McDo tout à l'heure, eux ou d'autres, que d'autres gros industriels ne fournissent pas eux-mêmes.
Deux chiffres importants, les Français produisent 35 millions de tonnes de déchets, les entreprises françaises produisent 350 millions de tonnes, 10 fois plus de déchets. Et on a l'impression à chaque fois qu'on parle de déchets qu'on ne parle que des déchets des ménages. En réalité, les problèmes qu'on a par exemple aujourd'hui des dépôts sauvages sont directement liés à, et il ne faut pas considérer que c'est un amalgame, hein, à des PME qui n'ont pas trouvé mieux que de déverser un certain nombre de gisements dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on mette l'accent sur le fait qu'il y a des obligations dans les entreprises. Par exemple, en France, il y a obligation de collecter sélectivement les gros producteurs de biodéchets. Donc en gros, la restauration. Mmh. Il y a une obligation pour les entreprises de collecter les 5 flux de matériaux principaux. Et ben, il y a une obligation en France pour les distributeurs de matériaux, donc les points P, les GEDIMAT, etc., de proposer des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment. C'est pas mis en place, c'est pas contrôlé, c'est pas sanctionné. Et les quantités sont énormes. Du coup, deux options. Soit elles se tournent vers le service public et du coup, les PME, PMI viennent voir les déchetteries publiques qui sont faites pour les déchets ménagers en disant « Est-ce que vous me collectez ?» Et dans le pire des cas, eh ben, ça peut être le ravin. Donc effectivement, vous avez raison, cette auditrice a raison, on devrait mettre un peu plus la pression aussi sur les déchets des entreprises sur lesquels on a l'impression que le minimum n'est pas toujours fait.
Allez-y.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. La preuve, on s'y attaque aussi. Je voudrais simplement préciser qu'on ne peut pas non plus complètement distinguer l'un et l'autre. C'est-à-dire que les déchets des entreprises, les déchets, les 350 millions de tonnes dont vous parlez, c'est quand même le résultat d'une production. Et cette production, elle est conditionnée par notre demande, par nos achats. Et donc, c'est aussi via nos choix de consommation qu'on a aussi un impact sur les déchets qui sont produits en amont de cette consommation et qui sont 10 fois plus importants, comme vous le précisiez.
Une nouvelle question sur franceinter.fr. Pourquoi les villes françaises ne pratiquent-elles pas le ramassage du compost comme ça se fait par exemple à Lausanne, où le compost est ensuite utilisé par la ville pour ses espaces verts?
Ça existe à Lorient.
Alors voilà, ça existe, j'imagine, dans certaines villes.
Oui. Et dans plusieurs collectivités rassemblées dans un réseau qui s'appelle Compost Plus. Donc le retour d'expérience français, il existe aujourd'hui. Il ne demande qu'à être déployé dans de plus en plus de collectivités. D'autant plus que le tri des biodéchets va devenir une obligation d'ici 2025. C'est la loi de transition énergétique qui l'a décidé il y a 2 ans. Donc on va quand même vers le développement de ces solutions complémentaires à celles du compostage à la maison ou en pied d'immeuble, en compostage de quartier.
Une précision, on ne collecte pas dans ces collectivités qui sont toutes adhérentes d'Amorce, on ne collecte pas du compost, on collecte des déchets organiques qu'on va ensuite composter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est une poubelle qui va permettre, il n'y a pas de travail à faire chez soi dans ce cas précis, c'est vraiment une collecte sélective qui va permettre de collecter des biodéchets et ensuite il y a une installation, on va dire, industrielle qui rassemble tous ces déchets organiques et on en fait du compost qu'on va ensuite revendre à des maraîchers, à des cultures de toutes sortes.
Allez, Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Alain. Allez-y, on vous écoute.
Ma question est toute simple. Elle porte sur les emballages plastiques alimentaires. Certains de ces emballages sont recyclables, comme les bouteilles d'eau minérale, par exemple. D'autres ne le sont pas recyclables. Les emballages de yaourt, de purée de fruits, de fromage. Ma question, donc, serait-il possible d'orienter, voire d'obliger les industries agroalimentaires à ne conditionner les aliments que dans des emballages recyclables ?
Et ben voilà une question simple et facile, et on a envie de dire, merci beaucoup Alain pour votre question Nicolas Garnier, on a envie de dire, ben oui. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à le faire?
En fait, on s'est rendu compte que pendant des années, les industriels ont mis sur le marché tous les emballages qu'ils semblaient bons pour des raisons sanitaires ou commerciales, hein, des emballages fluorescents ou coûtant moins cher à produire, mais que là, dans la plupart des cas, ils ne se sont pas posé la question de « je mets sur le marché un emballage qui se recycle ou qui se recycle pas ». Et donc, peut-être l'un des grands combats qu'il faut mener pour les prochaines années, c'est l'éco-conception. C'est se dire, quand je mets sur le marché un produit, pas qu'un emballage, hein, parce qu'on n'achète pas des emballages, on achète des produits dans des emballages. Est-ce qu'ils se recyclent ou pas. Parmi les propositions qui sont faites, il y a même une directive qui est en préparation à Bruxelles. Il est évoqué l'idée qu'on puisse soit taxer les produits qui ne sont pas recyclables, et c'est l'une des propositions qui a été faite dans la feuille de route, c'est de dire il faut une modulation, il faut un malus pour les produits non recyclables et les emballages non recyclables, soit voire les interdire. Vous pouvez savoir que l'année dernière, on a vécu une scène complètement folle. Je crois qu'on en a parlé à cette antenne, c'est les bouteilles de lait. Il y a un an, on a découvert que la bouteille de lait blanche n'était pas dans le même plastique que un an auparavant. L'ancien plastique blanc était recyclable. Le nouveau posait des problèmes de recyclage. Mais à aucun moment, on est venu nous dire voilà, pour des raisons principalement économiques, hein, ça coûtait 30% moins cher de faire la nouvelle bouteille.
J'allais vous demander si c'était ça la seule raison, c'est celle-là. Les fameux pots de yaourt symboliques dont vous parliez, c'est juste ça
c'est
la raison.
Économique d'abord, la première raison. Ensuite, il y a des questions sanitaires qui peuvent expliquer, par exemple, que vous avez besoin d'un plastique qui colle, par exemple, pour des tranches de jambon, mais des choses comme ça. Il y a forcément des raisons industrielles, mais ces raisons industrielles ne doivent pas nier pour autant que on est en train de mettre sur le marché des nouveaux plastiques. D'ailleurs, l'une des grandes questions qu'on se pose, c'est combien y a-t-il de plastiques différents dans un supermarché? D'après nous, probablement plusieurs dizaines, et si vous rajoutez des adjuvants et des mélanges, probablement plusieurs centaines. Et c'est là le problème, c'est qu'on a mis sur le marché des tonnes de choses. On a parlé des jouets tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un fabricant de jouets connu, par exemple celui qui fait des poupées blondes là, en grande quantité, est-ce qu'il s'est déjà posé la question de la recyclabilité de cette poupée en fin de vie? Le don, c'est encore mieux, Flore l'a dit, mais il y a des fois, elle est cassée, etc. Mais jamais ils se sont posé cette question-là. Donc pour nous, l'acte 1 d'une bonne gestion des déchets, c'est d'abord l'éco-conception et ensuite l'éco-consommation.
Et moi, je ne veux pas être naïf, mais je trouve ça étonnant, en fait, qu'on les pots de yaourt font beaucoup causer. Là, on a une habitante à Rennes qui nous dit, moi, ça fait un an que nous avons cru comprendre que les pots de yaourt se recyclaient. Faisons-nous donc erreur depuis tout ce temps-là?
Elle ne se trompe pas. C'est-à-dire sur notre pression, en particulier des collectivités locales, mais aussi des ONG, on a dit, faut qu'on arrête ce système dans lequel un certain nombre des emballages se recyclent, ou en tout cas sont dans la collecte sélective, et d'autres ne le sont pas. Donc on va vers une consigne simplifiée pour toute la France, ça va arriver d'ici 2022, il y a à peu près aujourd'hui 20 millions d'habitants en France qui ont une consigne simplifiée, qui consiste à dire tout emballage va être dans la poubelle du recyclable, tout emballage. Par contre, c'est pas parce qu'elle est dans la poubelle du recyclable que c'est forcément recyclé. Donc la deuxième partie du travail qu'on doit faire cette année pour être crédible vis-à-vis des populations, c'est si on met le pot de yaourt dans la poubelle du recyclable, il faudrait qu'il soit recyclable. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc nous, on interpelle les industriels en disant, votre responsabilité, c'est de trouver des solutions de recyclage pour le pot de yaourt, mais aussi pour la barquette, le film, le blister, enfin tout ce qui aujourd'hui n'a pas de solution.
Je crois qu'il faut aussi ajouter une deuxième chose, c'est pas seulement se préoccuper de la recyclabilité du plastique, des différents types de résines de plastique, mais aussi se préoccuper de des objets qu'on conçoit, est-ce qu'ils vont intégrer du plastique recyclé? Parce qu'en fait, le recyclage n'est intéressant que si on peut faire réellement une boucle, parce que sinon on sort pas vraiment du problème. Voilà. Et là, en l'occurrence, la bouteille plastique aujourd'hui, elle ne redeviendra pas une bouteille plastique et ce sera c'est pas le cas dans un avenir proche. Le pot de plastique, c'est la même chose. Le pot de yaourt, pardon, c'est la même chose. Donc ça, c'est une vraie impasse qui nous oblige aussi en fait à prendre le problème à la source, c'est-à-dire se poser la question de comment réduire les emballages. L'achat en vrac, la consigne sont des pistes qui se développent encore à petite échelle malheureusement aujourd'hui. Il faut absolument qu'on augmente ces volumes parce que le recyclage ne permettra pas d'apporter toutes les solutions.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir, c'est l'une des suggestions sur franceinter.fr ici, au gobelet en papier plutôt qu'au gobelet en plastique par exemple?
Mais c'est un petit peu la même chose en fait, ce gobelet en papier malgré tout, alors même s'il est plus facilement recyclable ou éventuellement compostable, ce gobelet à usage unique, c'est quand même un gaspillage de ressources quand il existe des alternatives réutilisables tout à fait facilement accessibles. Donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le recyclage. Le recyclage n'est pas un but en soi, c'est juste une manière de récupérer la matière et voilà, d'éviter un gaspillage évident. Mais l'objectif, ce serait d'abord d'arriver à réutiliser, à faire durer En fait, c'est ça le maître mot, c'est faire durer plus longtemps les ressources.
Et c'était le sens de la consigne dont vous parliez d'il y a 25 ou 30 ans. C'était l'idée que le produit avait une durée de vie qui était une bouteille, une pauvre bouteille de verre avait finalement une durée de vie qui était beaucoup plus importante.
Et le meilleur déchet, ça reste celui qu'on ne produit pas, qu'il soit recyclable ou pas en fait.
Bonsoir Brigitte Hélène.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, allez-y.
Alors moi, je suis extrêmement inquiète par rapport à ce qui est apparemment une politique nationale d'enfouissement des déchets. J'ai un ami qui s'occupe d'une déchetterie qui a commencé à me parler de ça. Moi, je pensais, donc j'essaye de trier au maximum, de pas trop jeter, j'ai du compost, etc., de recycler. Donc, il y a une problématique dont vous n'avez pas parlé, me semble-t-il, jusqu'à maintenant, c'est la toxicité de ces produits, des différents plastiques, etc., de ce qui part en déchetterie. Donc, s'ils partent sur le marché, sont enfouis. Déjà, quand c'est incinéré, ça dégage des dioxines qui sont cancérigènes, c'est déjà grave. Mais si en plus c'est enfoui, c'est encore plus grave parce que tous ces plastiques et compagnie. Donc les plastiques, quand ils sont réutilisés, les gens croyant bien faire, ça migre dans l'eau, ça migre dans l'aliment, ça les empoisonne, que ce soit de l'antimoine, des phtalates ou autres, parce que dans les différents plastiques, 1, 3, 6 et puis 7 PC, il y a des substances toxiques qui sont des perturbateurs endocriniens. D'accord, donc ça c'est déjà grave à la base, mais toutes les choses qui ne sont pas recyclées, qui partent en déchetterie, si elles sont pas brûlées et qu'elles sont enfouies, ça veut dire que ces substances toxiques passent dans la terre, de la terre dans les nappes phréatiques, des nappes phréatiques, etc. Je vous fais pas de dessin.
Non.
Donc tout va être empoisonné. L'air avec les dioxines quand c'est incinéré, la terre, l'eau, on va faire quoi?
Et Brigitte,
De Veolia et Suez qui s'occupent de ce traitement, donc eux ils encaissent, parfait, très bien, comme d'hab, mais ça, parce que évidemment le tri ça coûte cher, le recyclage coûte cher en main d'œuvre.
Et on a bien compris le sens de ce que vous nous demandez, effectivement. Est-ce qu'on peut savoir, Flore Berlinghen, qu'est-ce qui est incinéré, qu'est-ce qui est enfoui en fait après une déchetterie?
Oui, ce que rappelle votre auditeur, c'est qu'il existe encore environ 250 décharges, et non pas des déchetteries, parce que les déchetteries c'est là où on amène justement des matériaux pour qu'ils puissent éventuellement être triés, recyclés. Non, des décharges vraiment comme celles qu'on imagine dans les pays du Sud, des décharges à ciel ouvert, parce qu'une décharge c'est forcément à ciel ouvert quand elle est en exploitation. Donc il en existe encore à travers toute la France. Et c'est évidemment une priorité de les
mais
réduire.
Mais est-ce qu'on enfouit là ou est-ce qu'on incinère?
Là on parle d'enfouir. Et ensuite c'est l'autre mode de traitement le plus utilisé en France, c'est l'incinération. Et enfouissement plus incinération, ça reste encore aujourd'hui quasiment 2/3 de nos déchets. Et c'est beaucoup trop. C'est
Nicolas
beaucoup
Garnier.
Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Aujourd'hui, la France, si on prend les méthodes de calcul européennes, recycle à peu près 50% de ses déchets ménagers. À peu près 50, un petit peu moins, 48. Ensuite, le reste, donc la deuxième moitié, un quart va en enfouissement, un quart va en incinération. Alors, pourquoi finalement une structure comme la nôtre défend le recyclage et la prévention? Parce qu'on n'a pas volonté à maintenir des installations de cette taille-là, qui effectivement sont la moins bonne gestion par l'enfouissement, puisqu'en gros c'est un trou, hein. Cela dit. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de faire de la valorisation énergétique, qui est quand même un peu meilleure. Je reconnais que c'est pas forcément ce qui plaît le plus, c'est pas le plus sexy, on préfère faire du recyclage, mais quand même, faut savoir qu'aujourd'hui, la production d'énergie à partir des usines d'incinération va vous permettre de faire l'équivalent d'à peu près 1000 éoliennes, ou de 2 tranches nucléaire, ça selon vos affinités. Donc ça nous permet de produire de l'énergie qui va alimenter les réseaux de chaleur. Cela dit, c'est pas une fin en soi, parce que fondamentalement, notre volonté de service public, c'est bien de dire moins il y aura à éliminer, mieux on se portera, et plus on recyclera, mieux on se portera. Mais il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, la moitié de ce qui est aujourd'hui enfoui correspond à des produits qui n'ont aucune solution de recyclage. Aucune. C'est-à-dire qu'on ne peut pas culpabiliser les gens. Il n'y a pas de solution. Je parle des jouets, du bricolage, etc. Et aussi des déchets des entreprises. Donc, le combat numéro un, c'est de dire, il faut proposer des solutions de recyclage pour à peu près tous les gisements qui sont aujourd'hui dans le centre d'enfouissement. C'est la philosophie qu'a proposé le gouvernement la semaine dernière. Et puis ensuite, deuxième niveau, c'est de savoir effectivement s'il y a la possibilité de, pour ces déchets qui ne sont pas recyclables, si on peut plutôt faire de la valorisation énergétique plutôt que du stockage, ce qui est pas toujours possible aujourd'hui selon les configurations. Mais il faut bien avoir conscience que aujourd'hui on n'est pas les plus mauvais en Europe, contrairement à ce qui est dit souvent. En réalité, à méthode de calcul identique, on est à peu près au niveau de l'Allemagne. C'est juste des méthodes de calcul sont un peu différentes, mais on n'a pas à rougir des performances, mais il y a beaucoup mieux à faire.
Flore Berlinghen, avant de retourner au standard.
Oui, j'ajouterais que parmi les pistes de solution, il n'y a pas que la création de nouvelles filières de recyclage, il y a aussi éventuellement l'interdiction de certains matériaux non recyclables ou de certains objets à usage unique. Je pense par exemple aux pailles en plastique dont on parle beaucoup
bien
en
sûr,
ce moment.
Ouais, il y a beaucoup qui sont en train d'être interdites dans certains endroits.
Voilà, exactement. Il y en a 8,8 millions par jour en France, rien que dans la restauration rapide. Mmh. C'est quand même au final une quantité astronomique, même si la paille qu'on voit dans notre verre, elle semble toute frêle et symbolique.
Juste, je voudrais qu'on retourne au standard, faire un aller-retour, si vous le voulez bien, Nicolas Garnier. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Alors moi j'ai une petite réflexion concernant les appareils électroménagers et éventuellement leur réparation. Hein, parce que moi là, actuellement, j'avais un appareil électroménager, un nettoyeur vapeur, et il est tombé en panne. Et l'enseigne où j'ai acheté, c'est-à-dire Darty, pour ne pas les citer, me propose une réparation plus chère qu'un appareil neuf.
Ah ben voilà, moi j'ai le même problème avec mon fer à repasser, comme ça on s'est tout dit, Catherine. Et c'est vrai, Flore Berlinguen, que oui, ce sont des cas qui arrivent. Tiens, j'ai ce mail sur franceinter.fr. Les petits appareils électroniques qui pourraient être réparés, si seulement on pouvait au moins leur ouvrir le ventre, mais on ne peut même plus démonter la moindre prise de courant. Tout cela est fermé par une espèce de vis bizarroïde et de toute façon, on ne peut rien faire.
Bah, c'est vrai que c'est extrêmement énervant de se retrouver face à ces problèmes. Les choses bougent quand même. Il y a la création du délit d'obsolescence programmée qui va permettre peut-être les premières actions, enfin qui a permis d'ailleurs, et qui va permettre de nouvelles actions en justice pour faire cesser ces cas d'objets qu'on ne peut pas ouvrir et qui sont donc de fait irréparables. Et puis, il y a de nouvelles choses dans la feuille de route qui sont des pistes en tout cas, reste à voir comment elles seront appliquées. L'indice de réparabilité des objets par exemple, c'est une idée qui est mise en avant. Alors on sait pas encore de quelle manière il va être calculé précisément, mais à la manière de l'indice qui vous donne la performance énergétique des objets que vous achetez dans les magasins d'électroménager, et ben vous aurez peut-être demain cet indice de réparabilité qui au moins vous permettra de faire le choix d'un objet facilement réparable.
Sauf qu'on saura jamais si les pièces sont là, en fait. Est-ce qu'on saura si les pièces sont là, si les pièces existent, et combien de temps, et surtout combien de temps elles vont exister, ces pièces,
ça va
en fait.
Avec, effectivement.
Voilà, il faudra que ce soit écrit, ça fait partie des nouveautés, mais vous l'avez dit, l'un des problèmes, c'est le coût d'ouvrir l'appareil. Aujourd'hui, on travaille sur la possibilité qu'il y ait un coût de devis gratuit, peut-être avec les éco-organismes, pour qu'effectivement, prochaine fois que vous avez un téléviseur qui marche pas, qu'on l'ouvre avant de se demander si on le jette.
Alain, c'était le sens de votre question aussi.
Oui, tout à fait, effectivement, là, vous m'entendez, là, c'est bon. Oui, c'est-à-dire que l'obsolescence programmée, notamment, il y a le secteur de tout ce qui est imprimante, où c'est un vrai scandale de voir ce qu'il en est, d'acheter une imprimante, et on est sûr qu'à J+2 ans, ou J+2 ans et demi, on va être en rade, et avec des questions de cartouches, même achetées neuves qui ne sont pas reconnues, etc. Et je ne veux pas citer de marques, mais actuellement, il y a une marque qui fait de la publicité pour les cartouches qui sont faites avec du plastique recyclé à 3% peut-être, alors que le fait de la cartouche, du contenu, de la nature du cartouche, n'a rien à voir avec le fait du coût de production de ces machines. Et en bilan carbone, c'est vraiment déplorable. Et en plus, c'est vraiment une grosse honte de prendre les consommateurs en otage par rapport au fait que là, c'est de la programmation électronique.
Merci.
Donc, c'est en fonction du nombre d'allumages et d'extinction ou de durée que la machine se met en rade toute seule.
Et
en plus, il y a des processus de réinitialisation quand elle est en panne. Mais là, effectivement, c'est pas à la portée du consommateur.
Exactement. Tout ça s'appelle donc l'obsolescence programmée. Merci beaucoup, Alain. Il y a une chose qui est très agaçante que souligne Alain. L'imprimante marche toujours, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus les cartouches. Est-ce qu'à un moment, on peut interdire ce genre de choses? Continuer à fournir la cartouche qui va avec? On parle d'imprimante comme de n'importe quoi d'autre, tant que l'appareil fonctionne.
Mais là, pour l'instant, l'obligation de fournir des pièces détachées, elle s'applique pas encore aux cartouches. Pourquoi pas demain étendre cette possibilité. Ce qui est intéressant que mentionnait aussi votre auditeur, c'est l'effet d'annonce et l'affichage, le greenwashing en fait, pour utiliser ce terme anglophone.
Absolument.
Mais que peuvent faire certaines marques alors qu'elles nous vendent un objet jetable, elles mettent un petit logo recyclable ou recyclé et tout de suite ça passe mieux, alors qu'il faut quand même faire attention à ce dont il s'agit.
Allez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Portez-vous bien et attention en descendant les poubelles.